bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, c'est avec Leïla Kadour-Boutadi, Marina Rollman,
bonjour
Daniel Morin,
bonjour public,
Tom Villa, Tanguy Bassureau et notre invité Florence Pernet. Bienvenue Florence, actuellement au théâtre, enfin pas le lundi évidemment, c'est le seul jour où vous pourriez vous reposer, on vous embête en vous demandant de venir.
Je suis ravie.
Pour parler de cette pièce du mardi au samedi à 21h, les matinées sont de samedi à 16h45, c'est la suite française d'après le roman d'Irène Némirovski, on va en parler, c'est Virginie Louman d'ailleurs qui fait l'adaptation et la mise en scène.
Avec Stéphane Laporte l'adaptation.
Et puis du beau monde sur scène, parce que ça joue extrêmement bien avec vous évidemment, Béatrice Agenin, Guylaine Londel, Samuel Glomé, Emmanuel Bougerolle, qui est tellement drôle.
Drôlissime.
Mais tellement drôle. Parce que, paradoxalement, le sujet est grave, mais on rit pendant cette pièce. Cédric Revolon, en alternance avec Gaëtan Borg, tout cela, donc, au Théâtre La Bruyère. On va en parler avec Florence. D'abord, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Ça fait une semaine qu'on a commencé et ça va très très bien. Les retours sont excellents.
C'est mérité, c'est mérité. Au Théâtre La Bruyère, on va en parler. Mais d'abord, des questions concernant... Concernant Florence Pernel, quelle expérience Florence a-t-elle vécue à 7 ans?
Fin de la question.
Ouais. Quelle expérience a-t-elle vécue à 7 ans? On parle d'une expérience professionnelle.
Oui, bien sûr.
Ah, elle a fait des photos, elle a accompagné sa maman sur un tournage, elle a fait de la figuration.
Non.
Mannequin. Si, non, non, elle a tourné dans un film, elle a remplacé une petite fille qui avait déjà été choisie.
Jouer en public, monter sur les planches, chanter devant des gens.
Ah non, tu me dis que j'ai la bonne réponse, non?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Nagui est en train de parler tout seul.
Non, mais c'est Leïla qui a raison. C'est Leïla qui a raison. C'est-à-dire en accompagnant.
Tu chasses les bruits à la bouche? Moi, je fais les bruits si je veux dire.
Ça, on savait déjà.
Mais comme je ne réponds pas aux questions, je peux faire les bruits.
À 7 ans, boîte à jingle. À 7 ans, vous avez eu votre premier rôle, en tout cas.
En fait, j'ai suivi ma maman. Ouais, j'ai suivi ma maman qui avait des amis à France 3 Marseille, parce qu'on habitait Marseille à l'époque. Et c'était une petite période compliquée dans nos vies. Et elle m'a dit, viens avec moi, ça te changera les idées. Et elle faisait de la figuration où elle était nonne sur un film qui s'appelait. Alors, c'est Plein Soleil. C'est pas celui de René Clément.
Okay. Hein. C'est pas raisonnable de venir avec son enfant quand on fait la nonne, quand même. Voilà. Ouais, c'est pas dans le rôle.
Et en fait, je l'ai accompagnée parce que ça se passait dans un pensionnat et il y avait plein de petites filles. Et donc, elle m'a dit, on te trouvera bien un rôle. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, Marie Susini, qui était l'écrivain qui avait fait le scénario de sa propre vie, parce qu'en fait, c'était son enfance, a fondu sur moi en me disant, mais qui tu es, toi? J'ai dit, je suis la fille de la dame qui est là.
De la nonne.
Et en fait, je ne sais pas. Je suis la fille de la nonne. Et je ne sais pas si c'est parce que je lui ressemblais enfant, si parce qu'elle a été touchée, parce que je représentais ou ce que j'étais. Enfin bref, elle a fait des pieds et des mains pour que je fasse le film et j'ai fait le film.
Ce souvenir a l'air très présent dans votre mémoire. 7 ans, on a toutes les...
Oui, parce que
tous
c'est...
Tous les détails encore présents.
Oui, et en même temps, parce que dans mon parcours un peu chaotique de comédienne, j'ai toujours eu une chance dingue, parce que là, finalement, c'est quand même le hasard qui me met sur le chemin de Marie Susini. Et ensuite, quand bien plus tard, je vais être comédienne et puis je vais de nouveau arrêter et c'est de nouveau le hasard qui va mettre sur ma route Dominique Bessière. Donc en fait, c'est étonnant, mais
est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est votre destin finalement et une espèce de fatalité en disant mais vous êtes faite pour ça.
Le destin, il faut y croire. Donc je suis pas sûre de croire au destin, mais
ni à la fatalité ni au fait que finalement on est fait pour quelque chose, qu'on le veuille ou pas.
Alors peut-être est-on fait pour quelque chose. En tous les cas, si le ciel existe, il a beaucoup insisté pour que je sois comédienne.
Il a bien fait. Quel genre de rôle de femme aime-t-elle particulièrement tourner?
Les femmes qui ont existé.
Exactement, Tom. Les femmes de pouvoir.
J'aime beaucoup les femmes de pouvoir. J'aime beaucoup les femmes politiques et je regrette que la fiction française ne s'en empare pas plus que ça, je veux dire. Et que quand on voit les fictions, je vais encore parler des fictions anglaises ou américaines, mais c'est vrai, regardez, en ce moment, il y a Years and Years avec Emma Thompson, mais on rêverait de faire
avec
ça.
Avec une femme au pouvoir.
Mais oui. Et puis une femme dangereuse, mais c'est formidable de jouer ces femmes-là. Ou quand on voit Borgen.
Pourquoi c'est plus excitant ou intéressant intéressant de jouer le rôle d'une femme politique ou une femme de pouvoir et pas d'une femme d'affaires ou pas d'une
femme de pouvoir aussi,
ou pas d'une nonne.
Mais une nonne aussi, ça doit être passionnant.
En quoi le métier du rôle est important plus que les sentiments ou les états par lesquels elle passe?
Parce que je pense qu'être une femme de pouvoir, c'est très compliqué, quoi. C'est finalement, le pouvoir a été donné aux femmes, et encore, il y a du boulot, et que donc exprimer le pouvoir en tant que femme, c'est une gageure, quoi. C'est-à-dire, et parce que dès que vous exprimez le pouvoir, comme par hasard, on vous renvoie à votre sexe, les remarques sont souvent sexistes, etc. Et dès que vous êtes autoritaire, vous êtes castratrice. Dès que vous êtes, vous parlez plus fort, vous êtes hystérique. Enfin, voilà, quoi. Donc, je pense qu'il faut.
Ben oui, mais si c'est vrai, c'est vrai.
On a l'habitude, il faut le laisser parler un peu, il faut qu'il existe.
Oui, c'est son rôle.
C'est vrai.
Mais voilà,
ne sois pas castratrice.
Moi, j'adore. C'est passionnant de conjuguer à la fois la féminité, la famille, l'amour et le pouvoir, et que c'est, pour une comédienne, c'est un parcours passionnant. Voilà, mais après, une nonne, c'est tout aussi passionnant.
Dans Baron Noir, il y a Anna Mouleïs qui
a absolument, ce genre absolument. Quand j'avais fait La Conquête, Cécilia Sarkozy n'étant pas vraiment au pouvoir, c'était aussi tout à fait passionnant de travailler cette femme qui était une femme de l'ombre, quoi, au fond. Mmh. Plus une grande amoureuse.
Femme de l'ombre, alors là, c'est quoi? C'est un clin d'œil à Nathalie Baye aussi, qui l'avait
joué. Que j'aime beaucoup.
Quand Florence Pernel est au théâtre, elle a besoin de 8 heures de sommeil et
d'une sieste de 10 minutes.
Exactement.
Demain, je serai nul, mais aujourd'hui, j'étais au taquet.
Vous êtes cousin? Vous êtes cousin ou quoi?
Non, voyeur. Ça n'a rien à voir.
Là, n'empêche pas l'autre.
Vous avez besoin de dormir et de faire une sieste de 10-20 minutes.
Oui, pour me.
Et alors, c'est juste avant de monter sur scène ou c'est l'après-midi?
Non, c'est sur scène. Mais ne le dites pas, personne ne l'a vu, Daniel.
Pardon, je me tais.
Non, c'est souvent en début d'après-midi, mais c'est parce que je me lève tôt, donc voilà, j'ai besoin.
C'est le petit coup de barre d'après-repas?
Ouais, c'est le petit coup de barre, mais même si je ne dors pas, je vais vous dire, je me mets sur les podcasts, de Fabrice Drouel, figurez-vous.
Ça fait dormir, ça.
Non,
j'adore. Si j'arrive pas à dormir, je me mets sur ces podcasts.
Très bien. Alors, allons sur scène justement avec Florence Pernel. Et il peut lui arriver sur scène d'avoir
peur, paralysie,
un malaise.
Ouais, c'est ça, exactement. Exactement.
Quoi?
Des paralysies de peur.
Ah, c'est du trac, ça. Oui. Mais enfin,
je trouve ça surprenant quand
non,
on voit votre.
Non, alors je vais vous dire, je l'ai plus avant de commencer. Après, sur scène, ça y est, c'est parti, quoi. C'est de toute façon, vous êtes.
Donc lancé. Vous pouvez avoir un trac monumental.
Je peux avoir un trac monumental, et je crois que le plus gros trac que j'ai eu, c'est avec François Vincentelli. Nous faisions en direct le Dindon.
En même temps, quand on le voit, on a déjà peur.
Non, quel amour, j'adore cet acteur, il est merveilleux.
Soi-disant, il est beau. Soi-disant, il joue bien.
Je l'aime pas. Il est merveilleux. Bon, bref. Et donc, nous faisions le Dindon. C'était une captation. Et donc, là, non seulement vous avez.
Captation du Dindon. Roy Laboud, bienvenue dans ce monde.
Et c'était mis en scène par Bernard Murat. C'était à Édouard VII. Et là, non seulement vous avez les 800 spectateurs dans la salle, mais vous avez plusieurs millions de personnes qui vous regardent en même temps. Et là, vous savez que si vous vous plantez, mais c'est la honte de votre vie. Et nous étions tous les deux, je pense que j'ai jamais vu Vincentelli aussi blanc, et Berléand aussi, qui était mais vert.
Mais quoi, tous les trois, vous aviez peur?
On était morts de trouille. Et Berléand, drôle, François Berléand,
Alors je rappelle que François Berléand, pour ceux qui ont oublié, était comédien, quoi. C'était en
1990.
C'était deux siècles derniers. Et Berléand, il était blanc comme un linge.
Mais c'est sa couleur naturelle, l'envers.
Mais en même temps, on peut comprendre quel est le trac. Jouer avec Berléand et Vincentelli, franchement, il y a un moment où ça peut faire peur.
Je le souhaite à beaucoup de comédiens, je peux vous dire, parce que c'est
les gens qui se demandent là si c'est du lard ou du cochon, tout ça. Et on les embrasse, évidemment, tous les deux. Le track, vous avez souligné la présence de caméras. Il était donc sujet, ou en tout cas la cause était la présence de ces caméras et la captation, plus parce que vous n'avez pas le track tous les soirs quand au théâtre La Bruyère.
Non, j'ai pas le track tous les soirs, mais si vous voulez,
c'est l'absence de droit à l'erreur.
Dès que vous présentez un spectacle, dès que vous avez la responsabilité d'un spectacle, parfois quand vous savez qui est dans la salle, ça c'est mortel. Parce que
genre
ça...
les premières, les générales,
vous avez beau dire non, mais on s'en fout des critiques, tu parles, on s'en fout pas du tout des critiques.
Alors est-ce que vous demandez à ce qu'on ne vous prévienne pas
qu'il y ait un tel ou un tel? savoir. Non, non, je ne veux pas savoir qui est dans la salle. Je ne veux pas savoir. Mais même ma propre famille, je ne veux pas savoir. Ça me met dans tous mes états. Et puis, c'est aussi pour rester extrêmement, enfin, concentré, quoi. Ça
bien sûr.
Si je commence à penser à qui est là.
Dans la vie, Florence Pernelle, vous l'avez compris, pouvait avoir peur. Mais elle a peur de quelque chose de particulier. Plus d'un état d'esprit que d'un animal ou d'une situation. Elle a peur de quoi dans la vie?
Elle a peur de confort bourgeois, elle a peur de s'ennuyer.
Exactement.
Ouais, s'ennuyer.
Exactement.
Bon, je suis ouverte comme un livre.
Peur de l'ennui. Non, ils ont travaillé, c'est surtout ça quand même. Peur de vous ennuyer.
Oui, bah c'est pour ça que je pense j'ai été comédienne, quoi. Et parce que je voulais vivre plusieurs vies en une vie. C'est-à-dire qu'enfant, j'étais toute seule, j'étais assez isolée et je m'ennuyais ferme. Donc je me racontais beaucoup d'histoires et je me disais mais comment on fait quand on est adulte pour pas s'ennuyer ? C'était une hantise. Et donc je faisais beaucoup de petits spectacles, je montais des choses, je faisais des spectacles musicaux pour moi toute seule.
Alors ne pas s'ennuyer, ça veut dire lire, ça veut dire s'intéresser.
Alors ne pas s'ennuyer, c'est
avoir
surtout
des activités associatives.
J'avais surtout peur du vide de la vie, quoi. J'étais terrifiée à l'idée qu'une vie passe et qu'on n'en fasse rien. Voilà. Et donc, comme j'ai pas beaucoup de dons, je me suis dit, bah tiens, comédienne. Enfin, je me suis pas dit comme ça parce que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais quand j'ai découvert le fait de jouer et que j'ai enfin pris mon pied, parce que j'ai mis beaucoup de temps à avoir du plaisir,
à assumer,
d'accord, à me trouver légitime, à être d'accord
on en
avec
est tous là.
Voilà, on en est tous là. Moi, ça a mis du temps. Et donc, je me suis dit, mais voilà, c'est exactement la vie qu'il me faut, parce qu'en fait, je vis sans vie en une.
Allez, dernière question sur Florence, après nous allons parler de Suite française au Théâtre de la Bruyère. Qu'est-ce que Florence Pernelle supportait à 40 ans, mais moins aujourd'hui?
Alcool?
Exactement.
Ah bon?
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je cherchais quelqu'un.
Pardon. Alors,
je vais passer pour une alcoolique absolue.
Non, une épicurienne. C'était une vanne, mais qui est la réalité. En fait, vous dites qu'avant, quelques verres de vin, ça allait, et vous voyez l'impact que ça peut avoir aujourd'hui.
Non, c'est plus lié à une vie de patachonne que j'ai eue. Voilà. Et voilà, je me suis beaucoup amusée, je suis beaucoup sortie, je dirais.
Bringuée.
De 20 à 30, oui, je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Hein. Donc, j'ai enchaîné, si vous voulez, beaucoup les nuits blanches. Et c'est vrai que quand vous sortez, vous dansez, vous buvez, vous fumez, voilà. Et qu'il y a un moment donné...
Le corps vous envoie des signaux en disant...
Le corps vous dit, arrête-toi un peu. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me fais rigoler toute seule quand je suis en position de lotus, en train de faire du yoga, en me disant, mais la pauvre vieille. Donc, c'est arrivé, quoi.
En tout cas, je vous trouve en pleine forme, radieuse et séduisante.
Merci.
Donc vous inquiétez pas de ce côté-là, la nature vous laisse tranquille, ou la nature est bien faite. Alors parlons de cette pièce. Au Théâtre La Bruyère, vous avez commencé la semaine dernière, Suite française, adaptation du roman d'Irène Némirovski qui a eu le prix Renaudot posthume, puisque
absolument,
malheureusement elle a été déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en parlera tout à l'heure de son parcours. Prix Renaudot 2004. L'histoire, ça se passe en 41, pendant l'occupation, et les Allemands occupent non seulement le pays, mais carrément les maisons et loges chez généralement des femmes, puisque leur mari est à la guerre, leur mari ou leur fils sont absents, donc ils logent. Même l'expression employée, il est le maître des lieux, il peut décider de tout, que ce soit cueillir des fraises ou se servir du piano ou d'objets personnels, voire intimes. Et de là arrive une situation, évidemment, une espèce de tension entre une mère et sa belle-fille. La mère étant jouée par...
Béatrice Agenin.
Agenin, merci.
La belle-mère.
La belle-mère. Ouais. Oui, mais vous l'appelez mère dans la pièce, c'est ça qui est troublant.
Autrefois, on appelait, c'est ça. On appelait belle-mère, sa belle-mère.
Merci, ouais.
Et vous êtes donc la femme de son fils.
Fils, ouais.
Un peu d'ailleurs délaissée, on ne sait pas trop d'ailleurs si elle est, si elle l'attend ou...
Je ne crois pas, non. Non, elle est mal mariée. Elle est mal mariée. Disons que les rapports entre la belle-mère et la bru, hein, puisque ça s'appelle comme ça, je pense qu'ils vont très très mal depuis le départ. C'est-à-dire que le personnage de Béatrice Agenin est une possessive, est une passionnée. Et je pense que déjà que son fils se marie avec cette femme, ça a été un enfer. Enfin, elle était pas pour.
On peut tout dire ou pas de la pièce? On peut raconter? Oui, parce qu'il y a eu un film, puisqu'il y a eu le roman, on peut raconter un peu qu'il l'a clairement trompé.
Voilà, elle le dit très vite. Et donc le mari, non seulement l'a trompé, d'ailleurs dans le livre, il la trompe, il a un enfant ailleurs, à Dijon.
Il a une vraie double vie.
Et donc, en fait, elle est mal mariée. Elle n'aime pas cet homme ne l'aime pas. Et là, la guerre arrivant, les restrictions, l'occupation, etc., elles sont obligées de vivre. Elles vivent à Troyes avec donc Emmanuel Bougerolles qui joue la petite bonne qui amène justement beaucoup d'humour et d'air frais dans cette maison.
Elle amène pas que ça. Hein.
Elle
amène aussi des résistants.
Oui, absolument. Elle amène le problème. et donc ces deux femmes en fait se détestent, mais elles sont obligées de vivre ensemble. Et cette femme Virginie a voulu vraiment que Lucille soit un peu comme une fleur qui se dessèche dans un pot. C'est-à-dire que c'est une femme qui est au bord de l'abîme. Sa vie est à deux doigts de basculer justement dans la nuit, dans l'ennui, dans la sécheresse, etc. Et en fait, elle est encore toute pleine de vie, de sensualité, de curiosité. Et donc, quand l'Allemand arrive...
Elle est troublée.
Voilà. C'est pas qu'elle est troublée. Ah. C'est-à-dire que non seulement l'Allemand, il se trouve qu'il est beau, qu'il est extrêmement civilisé. Alors, ce qui est intéressant, il est joué par Samuel Glomet qui a toutes ses qualités. Et ce qui est troublant, c'est que en même temps, à la même époque, s'écrivait, puisque Irène Némirovski a écrit ça sur le vif, elle a écrit ça en 1940-41.
Ouais, ouais,
voilà. Et donc, elle s'est évidemment inspirée de ce qui se passait autour d'elle. Et ce qui est troublant, c'est qu'à la même époque, Vercors a écrit Le silence de la mer. Et c'est la même chose. C'est pas la même histoire, parce que la jeune fille est beaucoup plus jeune. C'est pas une femme, c'est une jeune fille. Mais ce sont ces premiers Allemands qui sont arrivés, qui étaient souvent des Allemands éduqués, francophones, francophiles.
Francophiles, c'est
voilà,
ça.
Absolument.
Il aime le pays, il aime la culture, il parle français,
il joue la musique. Est encore la langue du siècle des Lumières.
Et
quoi.
Il est très respectueux.
Il est respectueux parce qu'en plus, ils avaient des ordres, les Allemands, au début. Quand ils ont occupé la France, ils avaient l'ordre d'être courtois, d'être civilisés, etc. Et donc, arrive cet homme... face à cette femme
Ça reste quand même l'envahisseur.
Ça reste l'ennemi. Hein.
Je vais juste préciser une chose avant que tout le monde s'énerve sur la toile tout à l'heure. Quand je dis il va, c'est elle qui va amener le résistant. Vous avez dit oui, le problème, la résistance n'étant pas un problème.
Non.
C'est pas ça. C'est
pas du tout.
Ce qui se passe, c'est que la présence du résistant dans la maison va redistribuer les cartes et les rôles des
uns et des autres. Et va obliger Lucille.
Et va révéler chacun dans sa personnalité.
Et va obliger Lucille à prendre des décisions. Voilà, qu'elle n'était pas peut-être partie pour prendre, quoi. Qu'elle n'était pas, c'était peut-être pas ça qu'elle allait faire.
Non, mais ce qui est fort, c'est qu'il y a à la fois une espèce d'intrigue, de suspense sur le déroulement, sur est-ce que le résistant va être sauvé ou est-ce qu'il va être arrêté, est-ce qu'elle-même va se faire prendre ou pas, est-ce qu'elle va trahir entre guillemets les intérêts du pays et du résistant, et de l'autre côté, il y a toute l'intrigue humaine,
absolument,
relationnelle, entre les différents personnages, et je dis bien les différents personnages. C'est pas simplement une intrigue entre vous et
voilà,
ce
absolument, parce qu'en fait c'est
militaire.
Un tableau de l'époque, et ces quatre femmes, puisqu'il faut aussi parler de Guylaine Londès qui joue Madame de Mondemort et qui elle aussi
la femme du maire, pétainiste,
voilà, et donc c'est aussi un portrait de la collaboration, la façon dont on s'arrangeait et dont on collaborait, et Guylaine d'ailleurs par son jeu amène aussi beaucoup de drôlerie, mais de causticité, parce qu'en fait l'écriture d'Irène Némirovski est très, à la fois, elle peut être cruelle et caustique. Et je trouve que comme c'est une écriture sans concession, qui va directement à l'os, c'est ce qui amène aussi ce décalage, qui, à la fois, on est sur quelque chose de grave, mais on en rit. Il y a un côté un peu Tchekhov, quoi. On rit et on pleure d'un sujet qui, au fond, est quand même assez grave.
Oui, ça peut ressembler parfois à une sorte de comédie de caractère.
Exactement.
À certains aspects,
qu'en
effet, la toile de fond est tragique, qu'on connaît en effet l'histoire, et qu'on voit ce rapport de domination qui est exercé par cet Allemand, mais aussi par la belle-mère. Donc c'est un jeu de pouvoir au sein d'une même maisonnée.
Oui, absolument. Et ça, c'est merci à Irène Némirovski, parce que encore une fois, c'est Virginie Lemoine et Stéphane Laporte ont vraiment respecté le livre, et beaucoup plus que le film, parce que le film a un côté plus hollywoodien et plus happy ending. Enfin, pas vraiment happy ending, mais disons c'est plus policé, quoi. Alors que le livre garde toute la pudeur et de des rapports
et la pièce aussi, ouais, c'est ça. Ouais.
Et encore
et
une
la pièce,
fois, ouais. Voilà toute cette causticité de son écriture.
Au théâtre La Bruyère, Florence Pernel est notre invitée. Nous parlons de Suite française d'après le roman d'Irène Némirovski. C'est une adaptation qui a été faite par Virginie Louman et Stéphane Laporte. On va continuer bien sûr d'en parler tout au long de cette émission, mais d'abord Florence, là vous n'avez plus rien à faire, les questions et les réponses sont faites par Tom Ville.
Florence Pernel, bienvenue dans la bande originale. Tiens, j'en profite juste, Nagui, on embrasse peut-être ceux qui nous écoutent à la radio et puis on fait aussi un coucou à ceux qui nous regardent en direct sur YouTube.
Depuis quand filme-t-on les gens à leur insu ?
Comment c'est à leur insu, Florence ? Vous étiez pas au courant que maintenant la radio était filmée ? Alors je vous rassure, hein, vous n'avez pas à vous en faire parce que vous êtes très bien et qui...
qui en plus, gaulé comme une reine.
Ouais, alors, je t'aurais pas dit comme ça, je me serais pas permis. Mais oui.
Mais où ?
Physiquement, vous plaisez, Florence ?
Pardon, j'en ai les larmes aux yeux.
Ça va le melon, oui.
On fait ce qu'on peut et comme on peut.
Alors, Florence Pernel, vous êtes bien sûr actrice.
Tu sais que je suis agent maintenant, je suis agent de star.
Ah la vache, super imitation de Dominique Besnier. Vous savez faire d'autres imitations ?
Denis Podalydès.
Ok, super, allez-y.
Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? On t'a cherché partout, ça fait quand même 7 ans que t'es parti.
On dirait quand même vachement Dominique Besnier. Où est-ce qu'on peut vous voir sur scène faire ce spectacle d'une seule imitation
Pizza Pino des Champs-Élysées.
Ah bah c'est super. On va venir, ça marche bien, il y a du monde.
On a commencé à 5, on a fini à 9.
Ah bah c'est pas mal, écoutez. Alors sans rentrer dans la team, ça va quand même financièrement en ce moment ?
Je me suis mise à vendre mes propres affaires.
Eh oui, hein, c'est dur, la vie d'artiste. Alors Florence, on va quand même faire la promo de votre pièce de théâtre de... Oui.
Et puis j'ai une anecdote assez rigolote.
Ah bah super, allez-y, c'est bon pour la promo ça, allez-y.
Ma mère avait des copains à faire 3 Marseille qui...
Qui quoi ? Oui, et ?
Et en fait, de fil en aiguille, voilà, j'ai... Mais je ne faisais pas en fait de casting de comédie.
Quoi ? Et donc ?
Voilà, absolument.
Voilà, j'ai rien compris ce que vous avez dit. Pardon, hein, mais j'ai senti qu'il y avait une idée.
C'est
mais
possible.
Là, pardon de poser la
on
question.
On fait ce qu'on veut quand même. Enfin,
est-ce que vous avez bu ou peut-être parce qu'on dirait que vous buvez de l'eau croupie actuellement là.
Du gingembre dans de l'eau chaude.
Oui, c'est ça. C'est la potion de lendemain de cuite. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être revenu dans la bande originale ce matin parce qu'aujourd'hui c'est la troisième fois que vous venez dans notre émission.
Et alors
qu'est-ce que vous avez dit ce matin avant de faire un troisième passage ?
On l'a fait une fois. Pourquoi le faire 3 fois ?
Et oui, c'est exactement ce que s'est dit Patrick Balkany en fraudant le fisc. Bonne émission.
Merci,
la bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et on trouve Tom Villa le 11 et le 12 octobre à Lille pour ce spectacle, les nommés sont.
Ouais. On a commencé à 5, on a fini à 9, c'est bien.
Ouais. C'est super.
Tu rigoles, t'as pratiquement doublé, c'est formidable. C'est formidable. Suite française, un roman écrit par une main de femme, adapté par une femme et un homme, joué par plus de femmes que d'hommes. Et puis mise en scène par une femme. L'œuvre étant sauvée par les filles d'Irène Némirovski, c'est très 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 féminin.
Oh, c'est une histoire extraordinaire, l'histoire des filles d'Irène Némirovski, puisque quand elle a été arrêtée devant ses deux petites filles. Une avait 13 ans, Denise avait 13 ans et Elisabeth avait 5 ans. Et elle a confié à Denise la valise dans laquelle elle avait écrit donc Suite française, qui est aussi précédée de Tempête en juin. En fait, elle voulait faire une espèce de guerre épée, ouais. Et elle avait 5 tomes en tête et elle en a écrit que 2 puisqu'elle a été arrêtée. Et d'ailleurs, je précise que Tempête en juin est jouée à 19h et est interprétée par un extraordinaire acteur qui s'appelle Frank Detmets et qui joue à lui tout seul les 39 personnages de Tempête en juin. Je vous le recommande. Moi, j'ai été...
Au Théâtre La Bruyère aussi.
Au Théâtre La Bruyère à 19h.
D'accord.
En fait, l'idée de Virginie et de Stéphane était de présenter toute l'œuvre en fait, entière de Suite française. Et c'est, si vous voyez les deux spectacles à la suite, ils se répondent l'un à l'autre. Parce qu'on retrouve les personnages de Tempête en juin, on en retrouve certains dans Suite française.
Voilà. C'est un spectacle Suite française qui a été créé au Festival d'Avignon.
Absolument, on l'a créé il y a 2 ans. Et c'est pareil, c'est l'audace de Virginie Lemoine et de Stéphane Laporte, qui on a lancé ça à Avignon il y a 2 ans. Et ça s'est merveilleusement passé. On a refait un Avignon et voilà, nous arrivons à Paris. Et pour finir l'histoire de Denise et Elisabeth, leur papa a été arrêtée quelques mois après. Elles se sont retrouvées orphelines pendant la guerre. Elles ont été essentiellement sauvées par leur la bonne qui s'occupait d'elles et par Albin Michel qui n'a pas cessé de verser les droits d'auteur d'Irène Némirovski pour qu'elles puissent vivre. Et arrivées à la fin de la guerre, elles sont allées voir la grand-mère qui les a rejetées, de la même façon qu'elle avait rejeté sa propre fille. La maman de Irène Némirovski. Donc la vie a continué, mais Denise, qui conservait cette valise, ne l'a jamais ouverte. Par peur, voilà. Et puis un jour, il y a une inondation.
Ou par trop de respect, peut-être,
en peut-être
disant.
Je pense, une peur émotionnelle. Ouais, quand je dis par peur, c'est. Ouais, je pense que ça doit être terrible de. Voilà, vous imaginez. Ouais. Et dans les années 2000, elle a. Ça, c'est Virginie qui m'a raconté ça. Donc, elle a une inondation chez elle. Et tout d'un coup, elle pense à la valise. Et elle va et elle ouvre la valise. Et
pour
là,
voir si tout est intact.
Mais surtout pour sauver le manuscrit de sa mère. Ouais. Et là, elle voit ce manuscrit qui est écrit en tout petit. C'est écrit très serré, quasiment sans rature, sur toutes sortes de papiers qu'elle trouvait, etc. Elle a retranscrit complètement le livre de sa mère. Et finalement, elle l'a fait lire à un éditeur qui l'a édité. Et voilà comment est arrivé chez
Albin Michel, j'espère.
De Noël.
D'accord. Non, parce qu'il y avait aussi une reconnaissance à avoir.
Enfin, c'est une histoire, c'est la destinée de ce livre. Et, enfin, moi, j'avoue que la première fois que Virginie m'en a parlé, j'ai été plus emportée presque par la destinée du livre et d'Irène Némirovski que par l'histoire. Enfin, l'histoire, évidemment.
L'histoire est forte, mais la manière dont.
La manière dont tout ça arrive pour qu'on en parle aujourd'hui dans un studio, quoi.
C'est
en 2019.
C'est ça. Et qu'on aille le voir au théâtre de la Bruyère. Ça s'appelle Suite française. Voici Marina Rollman.
Bonjour les amis, samedi j'ai fait une fête chez moi et vous n'étiez pas invités parce que je vous aime bien mais principalement contre rémunération et cette fête a été l'occasion de récolter plusieurs fois le volume de Gérard Depardieu en alcool d'hiver et je me retrouve ainsi deux jours plus tard avec une santé et un appartement détruit, de quoi rester à 3,8 grammes jusqu'à l'élection de Bernie Sanders, mais en revanche il me manque plein d'autres trucs. Voici donc une petite liste non exhaustive des choses autres que de l'alcool qu'il est utile d'amener à une fête. Premièrement, des patins pour parquet. Tous les invités à une fête devraient porter des patins. Parce que quitte à se brouiller avec ses voisins à vie et à avoir la conversation la moins convaincante de l'histoire à 4h du matin avec des flics, sur un bonjour madame, vous faites une petite fête? Non, on dormait. Devant la porte, vous êtes 16 avec des petits chapeaux pointus. Peut-être c'est à côté, je sais pas, allez voir. Quitte donc à se faire engueuler comme des enfants, à avoir envie de mourir le lendemain, autant en retirer un parquet qui brille. Deuxièmement, un truc à amener qu'on oublie toujours, des aspirines vitaminées, les amis. Parce qu'il y a un calcul de base qui va pas dans les fêtes, c'est que tout le monde amène une bouteille. Ce qui veut dire qu'à moins de boire une bouteille par personne, et il n'y a pas de raison parce que je l'ai dit en début de chronique, je n'avais pas invité Daniel Morin, à moins donc de ça, il y a plus d'alcool que la dose journalière recommandée. Hein. Quand on voit la petite pyramide, tu sais, des groupes que tu dois manger et pas manger, on manque cruellement de tout ce qui est fibres et oméga 3 en soirée. Donc tout le monde finit foutu, mais le lendemain, parmi les cadavres de bouteilles et d'amis pour les moins résistants, tu cherches ton cerveau et ta boîte à pharmacie. Et c'est toujours ce jour-là que tu te rends compte que cette personne que tu aimais, avec laquelle tu as décidé de partager ta vie, qui jusque-là ne t'avait donné que peu de raisons de la stranguler, a remis dans la trousse à pharmacie une boîte de paracétamol vide. Elle l'a remise vide. J'ai failli le tuer hier. J'ai regretté de ne pas avoir un taser à la maison. Donc quand vous êtes invité, pensez à ne pas amener que des munitions pour se faire du mal, mais aussi la cure. Aspirine, paracétamol, intraveineuse de morphine, peu importe. Ça mais montrez pas, à vos amis que vous ne les aimez pas que pour ce soir, mais que vous avez aussi envie qu'ils voient demain se lever. Enfin, troisièmement, si vous allez à une fête, que vous ne savez pas quoi amener et que vous comptez arriver un peu tard. Amenez à manger, bordel. L'autre connard qui arrive à 3h du matin avec de l'alcool de serpent, t'as envie de le tuer. Toi, ça fait déjà une heure que tu essaies de gérer tes potes les plus sensibles qui se sont lancés dans des confidences beaucoup trop gênantes. Je crois vraiment que je préfère l'aîné, le petit. Le petit, j'aime pas sa gueule, il me revient pas. Et toi, t'es là, non mais c'est quand même tes enfants, Joséphine. Enfin, d'ailleurs, il va falloir rentrer parce qu'il est tard. Et donc, ceux qui arrivent à ce moment-là avec plus d'alcool, non, juste non. Alors que vous seriez venu avec une petite tartiflette à 3h du matin. Des gloires seraient tombées du plafond, il y a un cœur d'enfant qui serait sorti d'un placard pour chanter un lied de Schubert. Enfin, je veux dire, voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aller me faire un petit plat de pâtes pesto ibuprofène.
Tellement le vécu.
Mais prenez soin de vous et buvez avec modération.
Évidemment, évidemment. Merci, Marianne.
France Inter. Nagui, La bande originale.
Et on retrouve Marina au théâtre de l'œuvre tous les mardis et tous les mercredis, c'est à 21h.
Oui, venez.
Venez avec de l'alcool.
Oui,
et une tartiflette. Une tartiflette, ça, c'est bien. Tout à l'heure, nous recevrons Olivier Philippona, qui est écrivain, journaliste et biographe d'Irène Némirovski. On va à nouveau évoquer le parcours incroyable de cet auteur. Mais d'abord, la musique. Alors, la musique sur scène.
Ah, composée par Stéphane Corbin.
Ça, c'est la BO de la pièce de théâtre, ouais. Mais la BO de la vie de Florence Pernelle. On va commencer dans les années 80.
Tu as volé, volé,
volé,
volé, volé, volé, l'orange. Tu as volé, 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 l'orange du marchand.
Non. Quelles images vous avez en entendant cette chanson? Vous la chantiez?
Ouais,
vous...
ouais. Je la hurlais. C'est toute mon enfance. J'ai adoré Becco. Je pense que mes parents écoutaient Becco. Je connais tout le répertoire de Becco. Je l'ai chanté pendant des années. Je sais pas, il a été mon compagnon.
Ce qui est fort, ouais, ce qui est fort dans cette chanson, c'est que c'est un jeu. Ouais. Il y a des répliques,
ouais,
il y a, tu as volé.
Absolument. Mais non, absolument. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois à l'Olympia. Et moi, enfin, on l'appelait monsieur 1000 volts ou 100 000 volts. C'est tout à fait justifié.
C'est le premier.
Il électrisait les spectateurs.
C'est le premier artiste qui a fait que son public cassait les fauteuils.
Ah,
on avait l'image de Johnny cassant les fauteuils à l'Olympia.
Et quand il rentrait, il faisait ouais.
C'est son meilleur titre.
Ouais, non, mais je le trouvais très sexy, quoi. Il a vraiment accompagné mon enfance. Il y a eu lui et Serge Lama que je sentais à tue-tête, quoi. Et je faisais mes spectacles de Noël et tout ça.
Dans les années 80, Florence, vous avez déjà 3 films à votre actif, notamment Allons enfants d'Yves Boisset.
Ah ouais.
À cette époque-là, votre mère vous conseille de faire aussi des photos. Vous vouliez être indépendante, en réalité, gagner un peu d'argent pour...
Je voulais partir.
Pour partir à la maison, déjà.
Non, je voulais partir, je voulais voyager, je voulais... Oui, donc j'avais compris que...
À 14 ans.
Oui, je voulais partir au Pérou, ouais.
Et ça faisait pas peur.
Vous savez, être enfant unique, c'est un truc à double tranchant, c'est-à-dire
prisonnier de la famille.
Soit vous avez qu'une envie, c'est justement de partir. En plus, moi, mon père et ma mère étaient un couple très soudé, ils s'adoraient, et j'avais l'impression d'être un peu en trop, quoi. Et en fait, je me disais, mais je vais partir. Je vais les laisser s'aimer, et puis je vais partir. Et donc, c'était cette envie de partir. Et donc, j'avais compris que le nerf de la guerre, c'était l'argent.
Donc, des pubs, des spots.
Donc, j'ai fait plein de pubs. Oui, je suis allée dans une agence d'enfants, et j'avais deux énormes trous là quand je souriais.
Des fossettes
qui m'ont rapporté de l'or. Et j'ai tout fait, quoi. J'ai fait
Danone.
Alors moi, c'est plus des rides là aujourd'hui.
Non, c'est des fossettes charmantes.
Mais
donc vous avez fait quoi, Danone?
Voilà, j'ai fait Danone, Vivagel, les pompiers, sapeurs volontaires. J'ai fait.
Il y a des pubs pour Ginny aussi.
Ginny, vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, absolument. Ouais. Voilà.
En 1980, entre 1982 et 89.
Ah.
C'est pas une pub, ça aussi.
Ah, peut-être. Ouais. Grace Jones, elle, en tout cas, faisait la pub pour la Citroën, si j'ai pas de
mémoire. Non, c'était le Palace. Moi, c'est le Palace.
Ça, c'est les soirées au Palace.
Ah, ouais.
Et
ouais.
C'est les fameuses nuits dont vous parliez jusqu'à.
Bah, ça en fait partie, ouais. Ça en fait partie. Là, c'était génial d'avoir la vingtaine et de s'éclater là-dessus, quoi. Ouais.
Et à cette époque-là, vous décidez d'arrêter le métier de comédienne.
Ouais.
Vous venez de tourner un film de Denis Granier de Fer, que les gros salaires lèvent le doigt. Et en fait, vous réalisez que c'est pas forcément votre chemin.
Bah, c'est-à-dire que je pense que j'ai vécu un peu trop vite, quoi. Voilà, c'est un peu allé trop vite, et du coup, un peu comme quand vous arrivez à la cinquantaine, le corps se rappelle à vous. Et bien là, je pense que c'était plus psychologique, et je pense que j'avais une vie en fait trop d'adulte sans avoir vraiment vécu une adolescence, et que ça m'a rattrapé, que je me suis dit oula, je suis en train de... Enfin, voilà, je marchais sur un fil et je me suis dit, vaut mieux que je descende à terre, donc j'ai tout arrêté.
Pour faire de...
Enfin, j'ai pas arrêté pour faire de la brocante, j'ai
arrêté parce qu'il fallait que j'arrête. C'était une question de santé.
D'équilibre.
Oui, d'équilibre. Oui. Je l'ai senti comme tel. Quoi. Je pense qu'au fond, je suis une paysanne et que le côté terrien chez moi a senti que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose. Et comme je suis très...
Vous risquez quoi si vous continuez à ce moment-là?
Oh, je pense que je partais en sucette.
De se perdre, ouais.
Ouais, je pense que je partais en sucette. J'étais pas assez armée. Quoi.
C'est ce qu'on entendait dans le milieu. Elle perd la boule, la Pernelle. Oui, hein. On entendait ça souvent.
Juste pour comprendre, partir en sucette, ça veut dire quoi? C'est avoir les démons justement de la nuit, de tous les produits qui vont avec, alcool, drogue et compagnie, c'est ça?
Oui, je pense que... Alors, je ne sais pas si je serais passée par là, parce que la drogue, j'en ai vu passer plein sous... Ça ne m'a jamais tenté.
Vous avez failli dire sous le nez.
Mais je pense que c'était plus psychologique, quoi. J'étais plus du tout en phase, j'allais très mal, voilà. Donc, j'ai préféré...
Et vous n'avez pas de vie familiale équilibrée?
Pas assez.
Vous n'étiez pas avec
pas
un homme qui...
Non, je pense que non. et je pense que ma famille, n'étant pas du tout de ce milieu, n'avait pas non plus les références pour m'aider. En plus, on s'est un peu éloigné, voilà. Donc non, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc je vous dis, en bonne paysanne...
C'est intéressant parce qu'on entend rarement ce genre de discours. Et puis surtout, on se dit que dans ce métier, quand ça marche,
ça n'arrive jamais. On exploite le filon.
Là, ça marchait plus que bien. Parce que je devais faire aussi Mortelle Randonnée avec Isabelle Adjani. Je devais jouer la petite gamine qui la braque dans la voiture et que j'ai préféré...
Refuser.
J'ai tout arrêté, vraiment. Pourquoi je suis arrivée à la brocante, c'est parce que comme je suis très catégorique, quand je prends une décision, c'est total. En arrêtant, j'ai voulu me débarrasser de tout ce qui avait été ma vie avant. Et c'est comme ça que j'ai vendu mes affaires, voilà. Et j'ai découvert la vente à la sauvette, quoi, place de Montreuil. Et tout d'un coup, j'ai découvert les puces. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial, c'est pour moi. et j'aurais pu vendre du riz au chinois, quoi. Ça m'a exalté.
Qu'est-ce qui vous a plu dans les brocantes, en règle générale?
Je pense que ce qui m'a plu, c'était...
Au début, c'est pour vous débarrasser.
D'abord, ça a été pour me débarrasser de tout ce que j'avais été. Et ce côté vendre, tchatcher, arriver à vendre, mais n'importe quoi, en racontant n'importe quoi, j'ai trouvé ça génial.
c'est être comédienne, c'est
ouais. Bon, c'est oui, bon, mais c'est alors déjà, il y avait un truc, il y avait un côté, voilà. Et en fait, je pense que ce qui m'a plu, c'était d'être moi, avec moi, et de plus avoir ce rapport à l'image. Parce qu'en fait, le problème, quand je vous dis que j'ai mis du temps à être d'accord avec le fait d'être comédienne, c'est que quand je me voyais, je disais, mais c'est qui cette nana, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Je me détestais, en fait. Je n'aimais pas cette image et je me disais surtout, mais c'est pas moi, il y a un gars.
Là, aujourd'hui, plein de personnes iraient voir un psy plutôt que de se mettre à la brocante.
Voilà, alors je ne suis pas allée voir un psy, moi j'ai tout dégagé.
On est d'accord.
C'est un travail
à faire sur soi.
Si vous voulez, même dans mon monde à moi, le psy n'existait pas. Ouais. J'ai pas pensé deux secondes à aller voir un psy. C'est par les actes que je me suis régénérée.
Et pourtant, en 1989. Non, on est passé en 89.
Ah oui.
En 89, c'était la bande originale du film Bagdad Café. Appelle à ce moment-là avec cette musique?
Là, je crois que c'est moi, je m'appelais toute seule. Non, en fait...
Vous avez fait assez brocante?
Non, en fait, après la brocante, j'ai voyagé.
Au Pérou?
Alors, je suis pas allée au Pérou, je suis allée au Mexique, je suis allée aux États-Unis.
Le rêve péruvien,
non,
vous avez
finalement,
poursuivi.
Finalement, ça m'a lâché. J'ai tenté Rome, j'ai tenté de m'installer à Rome. Bon, toutes ces histoires aussi sont des rencontres, j'ai suivi un peu, voilà.
Des aventures.
Des aventures amicales, amoureuses, voilà. Parce qu'en fait, la brocante, c'était une histoire de groupe et elle a trouvé une fin, le groupe a explosé, etc. Et donc après, je suis partie aux États-Unis en me disant, de toute façon, les États-Unis m'attendent, hein, c'était évident. Voilà, donc je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte que les États-Unis ne m'attendaient pas du tout.
Ils vont pas bien depuis que vous êtes repartie.
Voilà, ils auraient dû. Donc bref, et quand je suis, en fait, je suis rentrée en 89 en France et je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je n'avais rien, j'avais un bac. Alors la chose que j'avais pour moi, c'est que dans tous les pays, j'avais appris les langues. Donc j'étais polyglotte, je parlais quand même 4 langues et je connaissais un peu ce que j'avais appris en brocante, c'est-à-dire la pâte de verre et la céramique. Et donc je suis allée au Louvre des Antiquaires, j'ai vu un type qui faisait de la céramique et des pâtes de verre et qui avait l'air de s'emmerder ferme dans sa boutique. Je suis rentrée et je me suis présentée, je lui ai dit voilà, je connais bien la céramique, je connais bien la pâte de verre, je parle 4 langues, je suis hyper sympa, je présente super bien, je vends du riz aux Chinois. Donc le type, je crois que je l'ai amusé et il m'a tendu une pâte de verre, il m'a dit et ça, qu'est-ce que c'est? Donc je me souviens plus ou moins que c'était un dôme, donc je lui ai décrit un peu dôme, la technique, le machin, l'année, tout ça. Il me dit vous faites quoi cet après-midi? Je dis rien. Il me dit voyez la boutique en face, tenez, je vous donne les clés.
Génial.
Voilà. Et c'est comme ça que j'ai recommencé. Et en fait, c'est pendant que j'étais au Louvre des Antiquaires que Dominique Besnéard m'a recroisé dans la rue. Et c'est là où je vais encore vous faire une imitation quand même qui vaut de l'or. Où il me fait Florence. Voilà.
C'était lui. Elle était où la pernelle, quoi?
Et il me dit mais c'est pas chez où? Ça fait 7 ans qu'on cherche par chez où. Et il m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Donc quand je vous dis qu'il fallait que je sois comédienne, c'est quand même incroyable.
Ouais, c'est la destinée, ouais.
Bah alors, faut-il y croire.
Bah, ouais. Oui. Tu as un truc à dire, Leïla, ou elle a tout raconté?
Non, après, il y a aussi de beaux films qui arrivent. Il y a 3 couleurs.
Ah, ça a été...
Kieslowski, ça c'est quand même un... Une filmographie, c'est
en
important.
En fait, Bleu, hein, de Kieslowski, je dirais que... Kieslowski m'avait dit... You will see this movie is gonna change your life.
Et alors?
Because he spoke like that. Et donc, en fait, ce qui a changé ma vie, c'est que le fait d'avoir été choisie pour Bleu, alors que c'était un casting assez large à l'époque, c'était encore Margot Capelier qui vous recevait, qui disait bon, allez, vas-y, chérie, hein, je vais déjà tout raconter sur toi.
Grande directrice de casting.
Formidable directrice de casting, vraiment. Et donc, le fait d'avoir été choisie pour ce film, à ce moment-là, et de jouer face à Juliette Binoche, qui pour moi, mais c'était une icône, et ça l'est toujours, hein, c'est vraiment une actrice que je vénère. Ça m'a légitimé, en fait.
Est-ce que le trac que vous avez lorsque vous faites des représentations avec François Vincent Elly et François Berléand, vous l'avez aussi quand vous êtes face à une comédienne que vous admirez justement comme Binoche, et là vous êtes envahi du trac de ne pas la décevoir dans votre jeu?
Alors là, j'étais envahie du trac, mais le problème c'est que je suis arrivée à 8h du matin et j'ai tourné à 6h du soir, et la fameuse scène des toilettes, qui était d'ailleurs celle qu'on a faite aux essais, parce qu'après il y a eu essais filmés, il y a d'abord eu essais parlés, ensuite il y a eu essais filmés 2 semaines après, j'ai attendu tellement longtemps dans la journée que j'étais en décomposition, si vous voulez. Et donc, quand je me suis retrouvée face à Juliette, dans une précipitation absolue, parce qu'ils avaient encore une scène à tourner derrière, parce qu'on allait changer le décor, etc. Et que tout d'un coup, je me retrouve face à Juliette, et que, en plus, la caméra est sur moi, je dis, mais on pourrait commencer avec elle, et que je tourne en 2 prises. J'ai attendu ça pendant des semaines, pendant des jours, et en fait j'ai que 2 prises. Et puis il dit bon bah stop, voilà, et la caméra se retourne sur Juliette, et après allez vite, on fait autre chose, etc. J'étais décomposée.
Frustrant,
j'étais décomposée. J'avais Christophe Kieslowski comme directeur, il m'a rien dit. Donc quand on m'a dit c'est fini Florence, vous pouvez rentrer, je suis restée et j'ai attendu pour revoir Christophe Kieslowski. Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi il me dit rien, pourquoi? Donc j'attends et finalement la journée de tournage s'achève, il va aux toilettes, donc je le suis, je me mets derrière la porte, et là quand il ouvre il me fait oh Florence, alors je dis oui, everything is okay. J'arrivais même plus à parler tellement j'étais émue. Je dis mais ça va, vous avez trouvé que ça s'est bien passé? Et il me dit of course, bien sûr. Ouais. Je dis mais you didn't tell me anything. Et il me dit mais je vous ai choisi. Et là, tout d'un coup, c'est vrai, j'ai réalisé, et il m'a dit, en fait, un film, c'est un casting. Si je vous choisis, c'est que vous êtes exactement ce que je veux.
C'était ça le problème de la légitimité.
Exactement.
En 2011, vous écoutiez Birds Flying High, la reprise de Michael Bublé.
Ouais. You know how I
feel. Alors, on a un peu parlé de cette période avec La Conquête et votre rôle de Cécilia Sarkozy, mais c'est plutôt la rareté au cinéma, oui, en fait, qui nous frappe.
Oui, de pas vous voir incarner un personnage, une femme puissante ou une femme lambda au cinéma.
Je lance un appel. Bon, alors ça, je crois que c'est dû à ma présence à la télé et au fait, si vous voulez, d'avoir acquis une notoriété par les séries et notamment par Le Juge est une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me parle encore du Juge est une femme, ouais, alors que j'ai mais arrêté en 2001.
Ça, c'est pas fini. Maintenant que tout le monde fait tout
oui
des séries,
et non, je pense que c'est
puis
fini.
Ça devient chic maintenant de faire des séries.
Voilà. Mais autrefois, si vous voulez, moi, quand j'ai commencé, on me disait ah non, fais pas de la série, fais pas de la télé, etc. C'était vraiment avoir la lèpre, quoi.
J'avais entendu un producteur qui disait il n'y a aucune raison qu'on paye une place de cinéma pour, alors qu'on voit quelqu'un gratuitement.
Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Ouais. Moi, je l'ai entendu, ça. Et je pense que, si vous voulez, après, vous avez, pardon, je vais être vulgaire, mais une putain d'étiquette qui vous colle à la peau.
C'est choquant. Étiquette, il faudrait trouver un autre mot, quand même.
Et donc, si vous voulez, les gens sont... ils se disent Florence Pernelle, actrice de télé, quoi. Alors que... on est actrice tout point, court, ouais. Voilà, point. Mais ça, je ne peux rien.
Que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision.
Mais heureusement, il y a quelques metteurs en scène qui dépassent, et comme Cédric Lapiche, etc., qui dépassent ces barrières, quoi, et qui font appel à vous.
Ces préjugés. Vous êtes au théâtre La Bruyère, je le rappelle, avec Suite française de cette pièce étant l'adaptation du roman d'Irène Némirovski. Et justement, Olivier Philipponat, merci de venir à ce micro. Vous êtes biographe d'Irène Némirovski, qui est née en Russie, à Kiev, c'est ça ?
Oui, elle est née à Kiev, dans l'Empire russe, en 1903 ou 1900, les documents sont pas très très clairs.
Elle arrive ensuite en France dans les années 20 ?
Elle arrive en France avec ses parents en 1919, en étant passée par... Elle a vécu les deux révolutions à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Elle est passée par la Finlande, la Suède, ils sont arrivés à Rouen en 19.
Et Suite française, cette pièce, comme l'a expliqué tout à l'heure Florence Pernelle, a été écrite pendant l'occupation, pendant la guerre, dans les années 40.
C'est ce qui rend ce roman absolument unique, c'est-à-dire que des romans sur la débâcle de 40 et sur l'occupation de la France par les Allemands, il y en a des tas. J'ai vu qu'il y en a encore un qui vient de sortir là, de Romain Slocombe, qui s'appelle La débâcle. Mmh. Et le projet est apparemment assez similaire à celui du roman d'Irène Némirovski, mais la grande différence, c'est que Irène Némirovski a écrit ce roman sur l'occupation de la France au moment où elle le vivait elle-même, et en prenant des risques d'un point de vue littéraire considérable, puisque Florence l'a rappelé tout à l'heure, ça raconte quand même dans la deuxième partie une histoire qui ressemble effectivement au Silence de la mer de Vercors, mais à cette différence que dans le Silence de la mer, la jeune femme et l'allemand ne se parlent pas. Non. Enfin, la jeune fille refuse de répondre. Fille. Alors que dans le roman d'Irène Némirovski, elle montre la réalité de la France occupée, à savoir qu'il y a eu, oui, des contacts entre des jeunes filles françaises et des soldats allemands très éduqués, comme Bruno, le soldat de Suite française.
Et comment cette femme, qu'on connaît assez peu finalement, cet auteur, même si elle a été récompensée d'un prix littéraire, en est arrivée à l'écriture c'est pas complètement anodin.
À l'écriture de ce roman-là
L'écriture, même de l'écriture.
C'est une petite fille qui est une fille unique, et qui a vécu une enfance très délaissée, qui est une des grandes inspirations de son œuvre, puisqu'il y a 15 romans, une cinquantaine de nouvelles à peu près à lire, délaissée par sa mère, parce que sa mère, effectivement, l'a rejetée, parce que finalement, plus sa fille grandissait, plus ça accusait son âge à elle. Sa mère voulait continuer à avoir une vie de séductrice, d'amante, etc. Donc elle a véritablement rejeté sa fille. Et la mère est un personnage très présent dans l'œuvre d'Irène Némirovski. Et puis son père était un homme d'affaires qui était jamais, à peu près jamais là, qu'elle a adoré, qui était certainement un père très très aimant, mais qui quand même était rarement là. Donc c'est une petite fille désœuvrée, et très souvent ça produit des écrivains.
Alors tout à l'heure Florence Pernelle nous a raconté comment l'œuvre a été mise dans une valise et n'en est sortie que dans les années 80. 98-2000, c'est 2000, ça ouais. Suite à une inondation ouais.
Je pense que c'est un petit peu avant, mais enfin la date n'a pas grande importance. Mais
Mais le fait que ces filles aient eu peur justement d'ouvrir la valise, ça c'est quelque chose d'incroyable.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le contenu de la valise, elles le connaissaient. Après l'arrestation de leur mère, puis de leur père, un par un, ce qui est quand même dramatique, en octobre 42, leur gouvernante, donc Julie, les a prises sous sa protection. Et il faut imaginer que ces deux petites filles ont 5 et 13 ans. Donc oui, elles emportent effectivement la valise avec quelques effets, et puis les manuscrits de sa mère, puisque leur père, au moment où il a été arrêté, a dit, ça c'est Denise qui nous l'a raconté, conservez bien ce manuscrit, votre mère va revenir, doit revenir, pour l'achever. Donc dans leur esprit, c'est un manuscrit inachevé qui n'est pas complet. Alors là où l'histoire est un peu plus compliquée, c'est que il y a une version ultérieure de ce roman qui a été tapée à la machine par le mari d'Irène Demirovski. Irène Demirovski, elle souhaitait publier ce livre. Son éditeur était au courant. Oui, il a été oublié. Et les filles, c'est pas qu'elles n'ont pas osé le lire. C'est vrai qu'il a une apparence de brouillon. Et puis je pense qu'elles ont conservé dans l'esprit, que ce roman n'avait pas été terminé par leur mère, ouais. Donc on n'y touche pas. Mais en réalité, quand on feuillette le manuscrit, on voit bien qu'à la fin, il y a le mot fin écrit de la main d'Irène Demirovski. Donc c'est quand même une œuvre complète.
D'accord, ce qui n'a pas été le cas de tous les romans d'Irène Demirovski. Est-ce que les filles ont poursuivi un roman ou un manuscrit parmi tous ceux qui étaient présents dans la valise?
Poursuivi, vous voulez dire
achevé, ouais.
Achevé.
Ah non, il n'y avait pas de roman achevé. Il y a des romans qu'elle avait achevés, mais que son éditeur avait déjà en main, qui ont été publiés après guerre sans grand succès parce qu'elle a été vraiment oubliée pendant 50 ans, on peut dire. Hein. Il n'y a que deux romans qu'on continuait à lire dans les années 2000 encore. C'était David Golder et Le Bal, qui l'avait rendu célèbre tout début des années 30.
Si le texte avait été saisi au moment de la déportation d'Irène Demirovski, que serait-il passé pour ses écrits?
S'il avait été saisi,
c'est brûlé.
Ah, saisi, vous voulez dire dans ce sens-là. Écoutez, je pense qu'il y a peu de chances que ce manuscrit ait pu disparaître à ce moment-là, en vérité.
Non, mais parce dans que... son contenu, j'imagine que raconter le rapprochement d'une Française et d'un
Allemand... Effectivement, et c'est vrai que quand on lit la deuxième version de Suite française, elle a édulcoré pas mal de choses, parce qu'elle parle aussi du village où elle a été réfugiée, où elle s'est réfugiée depuis 1940. Et quand on connaît la vie de ce village, les gens sont très identifiables. Donc c'est quelque chose qu'elle aurait certainement modifié. Il y a aussi un autre épisode célèbre dans le roman qui est la mort du prêtre, qui en fait... ce prêtre est un portrait du prêtre qui l'avait converti au catholicisme en 39, et elle le fait mourir dans des conditions absolument abominables dans le roman. Mais entre-temps, elle a appris que ce prêtre était mort les armes à la main en juin 40, au combat en Lorraine, et donc elle a réécrit une version plus sympathique de ce chapitre, par exemple.
Les deux filles ont heureusement pu échapper aux Allemands grâce à leur... nounou, enfin je sais pas quelle est
la gouvernante. Ouais.
La gouvernante.
Oui, c'est ça.
Qui les a cachés, qui a fui, comment
c'est donc passé? Irène Demirovski a été arrêtée le 13 juillet par la gendarmerie française, devant ses filles et devant son mari. Ils auraient très bien pu les arrêter tous les quatre, mais ils n'avaient besoin que d'une personne dans cet arrondissement pour compléter le convoi numéro 6. Là, ça s'est reproduit trois mois plus tard pour son mari, qui a vécu ces trois mois dans les conditions d'angoisse qu'on imagine. On est venu chercher uniquement le mari, qui était convaincu que c'était la dernière façon pour lui de sauver sa femme, c'était d'aller la retrouver, après avoir tenté toutes les démarches. Et les petites filles devaient être arrêtées quelques jours plus tard. On a les listes de la sous-préfecture sur lesquelles tous les noms des juifs domiciliés dans l'arrondissement de en Bourgogne, en Saône-et-Loire.
Elle a été planquée par son institutrice, Denise.
Alors c'est ça, ouais. Donc les noms figuraient. Elles devaient être arrêtées à un moment ou à un autre.
Elle a été cachée.
On ne sait pas exactement la date, mais effectivement, les gendarmes sont venus pour les arrêter. L'institutrice de village les a cachées. Ouais. Et très peu de temps après, la gouvernante les a emmenées. Elles ont été cachées dans un pensionnat catholique près de Bordeaux. Ouais, elles ont dû fuir à nouveau. Ouais.
Et au-delà du côté vivant de cette œuvre au moment de son jaillissement, elle a vraiment écrit dans le contexte dans lequel tout cela se passait. Il y a quand même son écriture, son talent d'auteur aussi. On parlait de causticité tout à l'heure, de détails, de ton. On retrouve, on comprend mieux maintenant les portraits des mères aussi, en tout cas dans la suite française.
Oui, c'est vrai que tout au long des années 30, Irène Demirovski, elle a aspiré non seulement à devenir française, elle n'a jamais obtenu la nationalité française, elle a été arrêtée comme juive étrangère, mais elle a aussi, elle aspirait à devenir un grand écrivain français. Et dans les années 30, elle écrit pas mal de romans qui ressemblent un peu à du Mauriac, etc., qui ont moins marché que les autres, que les premiers où elle faisait preuve d'un talent d'ironiste, d'humoriste très très mordant en effet. Et elle retrouve ça dans Suite française. Et ce qui est très frappant quand on lit ses journaux de travail de cette époque, c'est qu'elle y prend un plaisir extraordinaire alors que sa situation personnelle est dramatique.
Vous avez coécrit avec Patrick Liénard La vie d'Irène Demirovski, pardon, paru aujourd'hui en livre de poche. Merci Olivier Philipponin d'être venu à ce micro. Nous continuerons bien sûr de parler de Suite française avec Florence Pernel tout à l'heure. Mais d'abord Tanguy Pastureau, vous allez nous parler, tiens, ça faisait longtemps, de Patrick Balkany.
Oui, ce grand homme est tombé vendredi sous les coups d'une justice politique et arbitraire organisée par la mafia gauchiste. Taubira démission. Mais à Levallois-Perret, d'où je viens, on se mobilise, on se réunit autour de notre père des peuples qui chaque année envoie nos gosses de CP à Acapulco pour 3 semaines. Free Balkany!
bande originale avec Léla Kadobudadi, Marina Rollman, bonjour. Daniel Morin,
bonjour, Tom.
Tom Villa,
bonjour, Daniel.
Tanguy Pastureau et notre invité Florence Pernet. N'applaudissez pas trop fort, Marina Rollman a très mal à la tête.
Et si vous avez une tartiflette.
Cette petite gueule de bois.
Mais ça se voit tellement.
C'est la vieillesse, hein.
C'est ce que
vous y êtes pas encore.
C'est ce que nous disions tout à l'heure. Le corps t'envoie des signaux avec.
Le corps vous prévient.
Tu arrêtes de faire ça.
Ou alors il faut le faire tout le temps. Oui. Moi je crois que le problème c'est que je suis trop saine le reste du temps.
Ne jamais redescendre, ne jamais faire de yoga.
L'entraînement. Quand j'étais étudiant, mais je passais sans aucun problème des nuits blanches à bosser ou à faire la fête, ainsi de suite. Et il y a un moment où tu dis oui, nuit blanche, aucun problème. Tu arrives à la radio, tu fais bonjour.
Et là, tu sais. Monsieur Béranger a fait ça pendant des années.
Et il mourousille alors. Et là, tu sais que ton corps te dit non, c'est fini. Et c'est valable pour les filles comme pour les garçons, c'est comme ça. Ouais. Suite française, d'après le roman d'Irène Némirovski, on en a parlé tout à l'heure avec son biographe et avec vous, Florence Pernet, de cette pièce au Théâtre La Bruyère avec Béatrice Agenin, Guylaine Londez, Samuel Glomé, Emmanuel Bougerol, et puis en alternance Cédric Revelon ou Gaëtan Borg, cette pièce que vous aviez initiée à Avignon. Et qui se retrouve maintenant au Théâtre La Bruyère depuis une semaine.
Qui a bien marché au Festival de l'Avignon.
Oui, très bien. Les deux, parce qu'on en a fait deux.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une grosse différence de jeu en un an ou en six mois de travail?
Oui, parce qu'en fait, au théâtre, les choses infusent et le fait de porter comme ça un rôle pendant un an quelque part, parce que ça vous quitte pas, vous savez que vous allez le retrouver.
Vous réglez des choses,
peut-être même malgré vous ou sans le savoir. Et du coup, quand vous vous retrouvez sur scène avec vos mêmes, alors en plus, il y a par exemple le rôle de Madame de Mondemort a changé. Ça a été créé avec Christiane Millet et c'est Guylaine Londez qui a repris le rôle là au festival. Et du coup, forcément, elle propose une autre couleur, d'ailleurs absolument formidable. Et donc, on se réajuste. Plus là, nous sommes passés d'Avignon à Paris, sur la scène du Théâtre de la Bruyère, on a été obligés aussi de rectifier des choses dans le décor, qui nous obligent à différents mouvements, à une position différente sur le plateau.
Mais on voit toujours ce qui se passe dans la chambre de l'Allemand, on voit toujours ce qui se passe dans la chambre de la mère.
Mais d'accord. Moi, par exemple, alors, je ne sais pas pour mes petits camarades, mais moi, il y a une forme de maturité qui m'est arrivée dans le rôle. Et je pense que je la joue, enfin, j'interprète Lucille de façon moins victime, plus responsable.
Est-ce que justement, on peut jouer en faisant abstraction totalement du regard que l'on a aujourd'hui sur l'occupation, sur les nazis, sur les horreurs de la guerre, en se remettant dans le contexte d'un trouble que peut avoir une jeune fille pour un bel homme? Après, évidemment qu'il y a l'uniforme, évidemment qu'il y a la guerre et qu'il y a l'occupation. Mais on arrive à faire abstraction de tout ça sans passer pour une collabo et...
Moi, je suis pas sûre d'en faire abstraction. Je pense que je m'en sers énormément. Je m'en sers justement pour...
Le trouble.
Pour le trouble, pour cette espèce de résistance qu'on doit créer, enfin que je dois créer vis-à-vis de Samuel Glomé, qui dans la vie est un garçon absolument charmant et que je remercie tous les jours d'être un partenaire aussi sympa. Parce que franchement, jouer l'amour tous les jours, c'est pas évident. C'est un sentiment compliqué, l'amour. Parce que vous n'êtes ni en colère, vous n'êtes ni en pleurs, vous êtes ni... Et en plus, avec Virginie Lemoine, qui travaille de façon très pointilliste, c'est très délicat et c'est vraiment des petits tours d'écrou les uns après les autres et donc si vous voulez, je me sers de tout ce que je peux connaître et de tout ce que je peux ressentir sur cette époque. En plus, étant la femme de Patrick Rothman, j'aime autant vous dire que je suis très très informée.
Brillant historien, sur
l'époque. Ouais. Mais je me sers de tout ce que je connais et de tout le ressentiment et le sentiment que m'inspire cette période.
En tout cas, ça fonctionne. On est à la fois touché, ému, et puis on est même surpris d'éclater de rire dans des situations.
C'est
on dit,
ça qui est merveilleux.
Non, pas là.
Et pourtant.
Suite française au théâtre La Bruyère. Voici Tanguy Pastureau. Ouais. Tanguy, vous semblez bouleversé ce matin.
Nagui, mon monde s'écroule. Je ne dors plus, je ne mange plus, je ne bois plus, contrairement à Marina Rollman. J'ai passé le week-end à me faire du mal. Pour vous dire, samedi soir, je suis tombé sur la chanson secrète sur TF1. Il y avait un duo Maître Gims, Samuel Bent qui reprenait du Vita. Bah, j'ai laissé la chanson jusqu'au bout. Alors Vita, auditeur d'Inter, ce n'est pas un produit d'assurance, mais une chanteuse de R&B. Alors pourquoi suis-je aussi triste et qu'Aymeric Caron, quand en faisant du vélo, il a écrasé un ver de terre, donc potentiellement un nouvel ami? Eh bien, parce que Patrick Balkany est est en prison. Chirac y a échappé. Juppé aussi. Pasqua aussi, le seul à trinquer ses pattes. Balkany condamné pour avoir dissimulé son patrimoine. Bruel accusé d'avoir trop montré le sien. Sale temps pour les Patrick. J'espère que Patrick Cohen a signé son contrat sur France 5 parce que les Patrick sont maudits. Tenez, Patrick Sébastien a été viré de France 2. Il a tenté de rebondir en animant les 15 jours au champ, mais dès le troisième jour a fait l'hélicoptère avec son sexe. Au rayon des bananes plantains parce qu'il ne craint personne. Au champ, s'est séparé de lui. Les Patrick attirent le malheur. Patrick Roy est mort jeune. Le monsieur qui a mis les fils à Patrick Juvet est décédé avant d'avoir pu les lui retirer. Résultat, il a les joues tellement tendues que la nuit, les moustiques font des percus dessus. Christophe Maé, attiré par le bruit, vient danser. Patrick Hernandez n'a eu qu'un tube et Patrick Sabatier a plus traversé le désert qu'un bédouin qui aurait l'appli Wise, mais pas de réseau. C'est la malédiction des Patrick. Il faut savoir qu'Henri IV, juste avant d'être poignardé, venait de dire à un ami « Vieux, j'ai déposé un dossier à la mairie pour changer de prénom. À la place d'Henri, j'ai choisi Patrick. » Alors Nagui, vous allez me dire « Mais Tanguy, mon loulou, remettez-vous pour vous consoler. Si vous voulez, je vous fais un massage thaï. » Mais vous ne comprenez pas. Si la condamnation de Patrick Balkany me touche à ce point, c'est parce que c'est mon maire. Oui. J'habite le Valois. Alors vous, vous ricanez, les Parisiens bobos pétés de thunes. Tandis que moi qui vis au quotidien la banlieue, le 9-2, wesh les gros, j'en place une pour l'agence de la HSBC de la rue Victor Hugo. Mais moi je sais que Patrick paye parce qu'il vient du ghetto. Il est parti en prison, Jean Tiberi ? Non. Pourtant il faisait voter les morts, les bébés et les chats. Sur les listes électorales, il y avait marqué Kiki, Minou, Jean Valjean, Pikachu. Mais il était parisien. Il était parisien. Elle a fait de la prison, Anne Hidalgo ? Non. Pourtant, place du Panthéon, elle a mis 4 palettes sur 3 parpaings et a dit « Voilà, ce sont des bancs. Des gens sont morts d'inconfort en tentant de s'y asseoir. 4000 coccyx de pété depuis janvier. Le seul à être en taule, c'est Patrick. » Alors vendredi, au moment où l'on a pris effaré sa condamnation, je vais vous dire, j'étais à Levallois, au marché, qui est dans les jardins de l'hôtel de ville, parce qu'en plus, les halles ont brûlé. Je pense que si on creuse sous Levallois, il y a un ancien cimetière maya et que l'esprit d'un mage à flûte de pan s'acharne sur la ville. Ça crame, le maire est en taule, mais moi, si demain je raconte où j'habite à des mecs d'un gang de bikers mexicains, ils me diront « Ah ouais, on préfère notre vie, c'est tranquillou !» Alors devant la mairie, il y avait plein de journalistes. Hein. Et quand la nouvelle est tombée, TF1, France 2, Gulli, tout le monde était en live. La fille de la chaîne NMO hurlait « Madame Balkany, est-ce vous qui désormais allez sortir Al Capone, le labrador de la famille ?» Et là, Nagui, un journaliste m'a approché.
Il vous a reconnu ?
Non, pas du tout.
Ah bon.
Non, non, il m'a demandé de réagir à la nouvelle. C'est véridique. Un type de France Info. Donc je lui dis « Bah non, je peux pas trop. » Il me répond « Pourquoi ?» Je lui dis « Bah, je suis sur Inter. » Il me répond « Ah bon ?» Je lui dis « Bah, Pasturo, 12h10, avec Nagui, plus 400% d'audience sur le quart d'heure en 12 ans, le phénomène de société, Pasturo, quoi !» Il me répond « Ah ouais, Nagui, je vois. » Et là, sont montées en moi toute la frustration et la rage accumulée depuis des années. Eminem était dans le même état d'esprit quand il a écrit son premier album. Et dans ma tête, j'ai revu les images de Patrick, arpentant ce même marché, son sourire, ses grandes paluches qui font la taille de tout Lily Rose Depp. Cette masse, ce corps purée, contre lequel on a envie de se blottir en criant « Papa ». Et je me suis dit « Mon Tanguy Nounet, France Info de méprise, les journalistes qui par essence sont de gauche, à part Elisabeth Lévy, et encore, elle ramollit un peu en ce moment, se réjouissent de la condamnation de Patrick, défonce-les ! » Et j'aurais dit à ce type « Balkany, bah, il a quand même fait de belles choses pour sa ville, juste pour faire péter le système, si jamais derrière moi le poissonnier n'avait pas annoncé les encornets à 14 euros le kilo, et j'ai préféré faire mes courses, parce qu'en général, ils sont à 18,50. Mais ça, vous, les Parisiens, ne pouvez pas le savoir, vous tournez au quinoa équitable. Il faut vivre en banlieue pour ça. Alors à Levallois, ville meurtrie, cité martyre, la population se mobilise. Un livre d'or a été ouvert pour soutenir le maire, dans lequel de petites filles dessinent la tête de Patrick Balkany sur un corps de licorne avec ces mots « Reviens, t'es encore plus mortel que Vita hein, ». Maintenant que l'auditeur d'Inter sait qui c'est, j'en profite. Mais les Balkany, c'est comme Highlander, ils sont immortels. Vous en mettez un en tôle, c'est sa femme qui prend la mairie. Vous l'enfermez, elle aussi, un petit neveu, Kevin Balkany, 8 ans, déboule. Et s'il lui tombe pour trafic de choupa choups, c'est Fifi, son hamster, qui s'y colle. Patrick Balkany à Levallois, mais on le voyait partout, sur les marchés, au Franprix, à la poste, une fois je l'ai retrouvé dans mon bain. Et là, on nous en prive, pourquoi ? 2-3 millions non déclarés aux impôts, mais qui déclare tout aux impôts ? Comme vous me demandiez tout à l'heure avant l'émission, Nagui, quand il sortira des geôles macroniennes, Levallois-Perret renaîtra et ce sera la revanche de la banlieue. Wesh les gros, j'en place une pour la bijouterie de la rue Anatole France.
Merci pour l'invitation.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et on trouve Tanguy Pasturo ce dimanche à Belvigny.
Non, non, il sera en prison.
Et Belvigny, c'est en Vendée.
Oui,
voilà. À Belvigny.
Ouais. À Belvigny.
Dimanche. Très bien, très bien. Interro, culture, tout ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et Florence Pernel, vous pouvez essayer de me dire, par exemple,
essayez,
oui, quel personnage, quel rôle va jouer Arnaud Ducret? C'est le premier
Xavier Dupont-Ligonnès.
Ouais.
C'est le premier comédien à jouer le personnage de Xavier. Ok, d'accord.
Non, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, j'ai la grinta, mais sinon demain.
Ça, ouais. Qu'est-ce que j'écouterai demain?
T'anticipes une soirée ce soir, toi.
Est-ce que vous connaissez Nicki Minaj?
Non.
Ouais.
Rappeuse.
Elle a pris sa retraite.
On la connaît quand même beaucoup plus de dos.
Ah ouais. Elle a pris sa retraite.
Oui, elle va s'occuper de sa famille, Nicki.
Elle a quel âge?
Je pense 36 ans.
C'est un bon âge. 36 ans. Elle va faire de la brocante. Elle a dit, je laisse tomber.
Tu lui donnerais 2-3.
Je vends. Non, mais c'est surtout, elle est milliardaire, à succès. Ah bah et elle a dit, j'ai plus besoin, maintenant je m'occupe de ma famille.
C'est tellement rare. Moi, je me dis toujours, pourquoi, par exemple, quand Madonna, ses derniers albums. Et voilà. Et je trouve ça beau de dire, j'arrête.
C'est bien qu'on peut avoir envie. Moi, je comprends. Je suis pas sûre si je suis millionnaire.
Ah, quand le dernier taratata.
Non.
J'ai assez fait fortune.
Si je vous dis qu'il a vendu 100 000 livres de plus que son adversaire, je parle de quel duel? 100 000 livres de plus que son adversaire. C'est un duel. Deux personnes qui sont opposées, chacun a fait un livre et il y en a un qui a vendu 100 000 de plus que l'autre.
C'est pas Booba et Caris quand même.
Non.
Yann Wax, non.
Obama.
Sarkozy.
Pardon?
Sarkozy.
Exactement.
Ah, Hollande.
Exactement. Sarkozy, Hollande. Exactement.
Ah ouais.
Parce que la politique, ça vous intéresse au-delà de jouer des rôles.
Ouais.
Vous les lisez tous ces livres?
Non. J'avais lu au moment de la conquête, mais là, je dois dire qu'aujourd'hui, j'écoute tellement la radio qu'en fait, je reste très informée par la radio.
Un écart de 100 000 ventes, donc, entre Passion, le livre de Nicolas Sarkozy, et Les leçons du pouvoir, celui de François Hollande. Je sors bientôt en France, mais pas aux États-Unis. Je suis...
Un film Woody Allen.
Exactement.
Ah ouais, c'est vrai.
Bravo.
Bah oui. Et ouais, sorti en France le 18 septembre. Et...
Il sort pas aux États-Unis du tout.
Du tout.
C'est un film ou Woody Allen?
Pensez-vous...
Ah, Woody Allen, il sort plus du tout.
Pensez-vous qu'il faille distinguer l'être humain de son œuvre?
C'est une question compliquée, j'avoue. J'ai du mal à me positionner parce que, en même temps, ce sont des accusations portées. Sont-elles vraies? Sont-elles pas? Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de se positionner là-dessus. Hein.
Mais est-ce que, par exemple, les films de Roman Polanski, vous allez les voir? Les albums de Bertrand Cantat, vous les écoutez?
Alors, Bertrand Cantat, non. Parce que vraiment, ça m'est resté en travers de la gorge. Ce drame m'est resté en travers de la gorge, vraiment. Maintenant, j'ai du mal à lire Céline, et pourtant, quel auteur. Mais j'ai du mal à le lire, c'est vrai.
Nous aussi, on a du mal avec lui, et pourtant...
Quel auteur.
Il écrit bien. Daniel Morin.
Ah, on s'en soutenu, c'est cool. Ouais.
Putain, j'espère que t'as apprécié le parallèle.
Oui, bravo. Les pauvres n'ont pas le privilège de la misère. Une fois encore, le projet de réforme des retraites crée la colère. Aujourd'hui, plus que jamais, la contestation est contagieuse. Alors, entre la RATP vendredi dernier et l'appel à la manif de samedi prochain par Force Ouvrière et la CGT, cet après-midi, rendez-vous est pris à 13h pour une manif d'autres pauvres, d'autres précaires. Oui, ils sont inquiets. Inquiets pour leurs vieux jours. Ils ont peur du spectre de la misère. Ils se sont trois catégories bien connues pour galérer financièrement. Les médecins, les avocats, les pilotes de ligne se réunissent place de l'Opéra. C'est bien qu'ils fassent ça parce que nous, on ne sait pas que ces catégories sont dans le dénuement et la précarité. On est là à s'imaginer bêtement qu'un avocat, c'est riche. Ben non, il y a des avocats qui sont pauvres, qui ont peur de vieillir sans le sou, surtout à Paris. On pense à tort visiblement qu'un médecin n'a pas de soucis financiers. Ben non, il y a des médecins qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, surtout à Paris. On pense, comme des cons, qu'un pilote de ligne, ça gagne bien sa vie. Que dalle. Apparemment, il y a des pilotes démunis. Surtout à Paris. Alors, ce rendez-vous prévu dans, 40 minutes maintenant, place de l'Opéra, j'aimerais qu'il soit soutenu par une majorité de Français. Même si vous n'êtes pas pilote, pas avocat ou pas médecin, allez les soutenir, ils ont besoin de vous. Les soutenir, pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, parce qu'une société sans gens riches, c'est pas pareil, c'est triste. Pourquoi? Eh bien, parce que le sans-emploi, il est fier quand il voit passer devant lui un avocat au volant de son Aston Martin. Il se dit que la France est un vrai pays d'opportunités. Parce que quand le SDF voit arriver le pilote de ligne accablé par le décalage horaire de son vol Sydney-Paris, eh bien, il se pousse pour le laisser passer. Et là encore, ce sentiment de fierté d'habiter le même immeuble que lui. Lui dans le hall et le pilote dans le 200 mètres carrés terrasse au dernier étage. Ok, mais c'est quand même le même immeuble, ils sont quasiment voisins.
C'est aussi triste, un monde sans riches, parce que quand le 31 décembre, le migrant sort sa tête gelée de la tente quechua installée au bord de la Seine et qu'il voit passer la péniche de la Convention nationale des chirurgies esthétiques qui fête la nouvelle année à grands coups de champagne, eh ben il se dit qu'en France, la médecine, c'est festif. Il est fier, lui aussi, d'avoir été accueilli dans ce pays où, avec un diplôme et une caisse de silicone, tu peux faire fortune. Mais ils ont raison, les gars. Vivement que tout le monde s'y mette aux manifs pour protéger la retraite. Le 21 juin prochain, ne manquez pas le grand rassemblement pour la défense des retraites organisé à Monaco. Pour sauver leur pouvoir d'achat, quand viendront les vieux jours, ils se réunissent. Ils, ce sont les banquiers qui ont peur de la décroissance, les traders qui craignent la spéculation et les animateurs producteurs télé qui craignent les feuilletons allemands des années 80 qui font autant de téléspectateurs que leur programme qui coûte 30 fois moins cher.
Non.
40 fois moins cher.
Non plus.
Bref, 50 fois moins cher. Mais non, c'est une surenchère incroyable. Bref, tous ces professionnels qui ont peur de passer du jour au lendemain du statut de très riche à celui de juste riche, c'est-à-dire pour eux, de pauvres. Soutenons-les, envoyez vos dons à l'association SOS Millionnaires en Péril, Banca Internacional de Panama, Panama City. Bon, en même temps, je comprends qu'on veuille défendre ces vieux jours, même quand on est avocat, pilote ou médecin. Mais bon, quand, selon l'INSEE, le nombre de pauvres en France s'élève à près de 9 millions, on peut faire preuve d'un tout petit peu de retenue. À demain.
Et de pudeur.
Merci. La bande originale avec Nagui.
On évoque bien sûr cette pièce de théâtre, Suite française au théâtre La Bruyère, du mardi au samedi à 21h et à 16h45 pour ce qui est de la matinée le samedi. Mais il y a aussi la fiction dont nous parlions tout à l'heure, qui revient sur TF1. Enfin, qui revient. Une fiction qui va démarrer sur TF1. Historique aussi, on n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale, on est au 19e siècle.
Fin 19e, 1896.
Le bazar de la charité.
C'est le bazar de la charité. Alors ça, je dois dire, tout à l'heure, je disais, mais pourquoi les fictions françaises ne sont pas parfois de sujet de pouvoir. Là, je dois dire que je salue l'audace d'une productrice formidable qui s'appelle Iris Becher et qui a monté ce projet formidable qui prend comme toile de fond...
Trois femmes.
Voilà. Et surtout l'incendie du bazar de la charité qui a vraiment existé, pas très loin d'ici, rue Jean Goujon, et qui a été une tragédie puisqu'il y a plus de 120 femmes qui sont mortes, brûlées. Il n'y avait pas de sortie de secours. Elles ont été coincées là-dedans, etc. Et c'est la toile de fond d'une grande fresque romanesque dont les trois héroïnes, Audrey Fleurot, sublime, oui, absolument. Et,
Nous recevrons la semaine prochaine.
Ah, ouais. Bah alors,
pour le
théâtre aussi, exactement. Oui, elle est au théâtre également. Donc Audrey Fleurot, magnifique. Camille Lou, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui est aussi une comédienne hors pair. Et Julie de Bonnat. Et c'est le destin de ces trois femmes. Et elles sont accompagnées, ces trois femmes, d'une dizaine de second rôle dans lequel il y a Josiane Balasco,
Mel Gibson.
Gilbert Melki. Merci, excusez-moi.
C'est à partir de quand tout ça, le bazar?
Alors, c'est avant la fin de l'année. Voilà. Et c'est 8 fois 52 minutes sur TF1. Super. C'est mis en scène par un type génial qui s'appelle Alexandre Laurent. Et ça va être diffusé sur TF1 et Netflix. Première collaboration avant la fin de l'année.
Parfait.
Et c'est magnifique.
Voilà. Bazar de la charité.
Oui, le bazar de la charité.
Avec Florence Pernel qui est notre invitée aujourd'hui, Audrey Fleurot qui viendra lundi. Mais tout de suite, Leïla, qu'est-ce que tu as retenu de Suite française ou de cette émission?
Moi, ce qui m'a touchée, c'est de m'intéresser à la naissance de des émotions chez cette femme. Mmh. Et ça m'a fait penser à toutes les femmes qui ont été tondues à la libération, ce que je trouve profondément injuste.
Mmh. Mamie, si tu m'écoutes.
Marina Rollman.
Moi, ça m'a donné envie de lire la biographie d'Irène Niewiarowski parce qu'elle a une vie un peu folle.
Ouais. Tanguy Passureau.
Moi, l'émission m'a donné envie de soutenir Marina Rollman qui apparemment vit ses derniers moments.
Tom Villa.
J'ai envie de voir Florence Fernel vendre un camelot dans une brocante.
Du riz au chinois.
Ah, c'est vrai. Daniel Morin.
Moi, j'ai peur qu'avec la fiction, Florence Fernel retourne dans l'anonymat des actrices. Soutien, j'irai manifester pour vous à l'opéra ou ailleurs.
Très. Florence, qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire d'une personne sortant de la salle du théâtre La Bruyère après avoir vu Suite française?
Oh, j'aimerais d'abord entendre dire qu'ils ont passé un merveilleux moment, bien sûr, mais surtout, comme dit Marina, c'est-à-dire d'avoir envie de lire le livre, de découvrir le talent.
Le reste de l'œuvre aussi.
Oui, mais... le talent, parce que vraiment, c'est un talent lumineux, Irène Niemiarowski, et non seulement
et moderne dans son écriture.
Absolument.
Parce que ça, c'est aussi important de le dire. Il y a des vannes, il y a un rythme.
Voilà.
Il y a une sincérité.
Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Elle est sans hypocrisie, elle est sans sentimentalisme et sans complaisance. Et donc
qu'il y a quelque chose de très vrai. Quoi,
au théâtre La Bruyère, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour les réalisateurs et metteurs en scène qui avaient prévu de travailler avec Florence Pernet, François Vicentelli et François Berléand et qui ont découvert ce matin qu'il y avait plus sécurisant comme casting. Alors pour Florence, on a appris ça ce matin. Mais pour les deux François, ça c'est depuis longtemps dans le métier quand même, évidemment. Les amis. Attention, hein. Désolé pour nos auditeurs qui nous ont reproché de cautionner les coucheries avec les Allemands et de qualifier la résistance de problème.
Oh.
Et alors c'est ça aussi l'audace de la bande originale. Mais non, j'ai tout compris. Oui, c'est ça la résistance contre la bien-pensance bobo, bolchevo, végano, France intérieure. C'est ça, ça va? C'est bien ce que tu voulais dire, Nagui? Ok, super. Alors, désolé enfin pour nos auditeurs intello qui auraient oublié d'éteindre France Inter à 11h et qui regrettent d'avoir raté notre débat sur le destin, la destinée, le fatalisme et le hasard. Alors, c'est pas faux, c'était bien, mais j'ai pas le temps de tout reprendre. Moi aussi, j'ai mon destin et mon fatalisme. Je dois aller faire l'amour avec Tanguy Pastureau juste avant d'aller à la cantine. C'est dans mon contrat.
Il n'y a pas d'apéro exceptionnellement aujourd'hui. Non, non, étonnant. Merci Florence Pernel.
Merci mille fois. Bravo.
Bravo. On vous aime. Demain, Sandrine Bonner et Pablo Poli seront nos invités. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Pardon pour ce retard.
Je t'en prie, Nagui. Merci. À demain.